France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. L'émission du jour a été préparée par Paul Weinarter, programmée par Bruno Barada. Elle est réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Olivier Arnay. Et une fois n'est pas coutume dans nos portraits d'économistes, aujourd'hui on commence par la fin.
Lorsqu'il a reçu le prix Nobel d'économie en 1981, James Tobin était connu des économistes bien sûr, mais pas forcément du grand public. Cela dit, depuis qu'il a créé la fameuse taxe qui porte son nom, il est célèbre sur toute la planète. James Tobin est mort à l'âge de 84 ans. Il était donc le père de cette taxe sur les transactions financières internationales.
En mars 2002, lorsqu'est annoncé le décès de James Tobin, c'est donc en tant que père de la taxe qui porte son nom. Il faut dire que peu de temps auparavant, cette taxe avait connu son heure de gloire à la fin des années 90, portée par des mouvements militants, notamment au premier rang desquels on retrouve bien sûr ATTAC, acronyme qui signifie jusqu'en 2009 l'Association pour une taxe Tobin d'aide aux citoyens, tout un symbole. Mais au-delà des symboles, justement, James Tobin est surtout l'homme qui a cherché, dans les pas de John Maynard Keynes, à comprendre la façon dont fonctionnent les marchés financiers et comment opérer des choix, prendre des décisions de politiques économiques capables de produire un système où marché financier et marché du travail, des biens et des services pourraient fonctionner dans une certaine harmonie et au même rythme et dans les mêmes proportions, bref, à limiter les accès et les excès des uns pour permettre aux autres de fonctionner. C'est donc là tout son but et il ne dit pas autre chose lorsqu'il reçoit en 1981 le prix de la Banque de Suède, soit le prix Nobel d'économie. J'ai étudié l'économie pour deux raisons. Le sujet était et est toujours fascinant et stimulant sur le plan intellectuel, en particulier pour celui qui a du goût et du talent pour le raisonnement théorique et l'analyse quantitative. En même temps, elle offrait et elle offre toujours l'espoir d'une meilleure compréhension qui pourrait améliorer le sort de l'humanité. Et avec nous pour dresser ce portrait et comprendre quelles solutions James Tobin a mis sur la table pour améliorer en économiste le sort de l'humanité, j'ai le plaisir de recevoir Günther Kappel-Blanquer. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru récemment, l'année dernière, intitulé « La taxation des transactions financières ». C'est paru à la découverte. Et un ouvrage pour lequel vous avez reçu, il faut le mentionner, le prix du meilleur livre d'économie à destination des étudiants décerné par l'AFSE, l'Association française de sciences économiques, le 15 mai dernier. Et Günther Kappel-Blanquer, on va revenir bientôt à cette idée d'un hommage à James Tobin, comme on le mentionnait. On le disait, c'est en mars 2002 que la planète entière a appris cette nouvelle-là. On entendait plutôt Fabrice Drouel nous annoncer ce décès et d'autres commentateurs ont suivi.
Comme les Keynésiens, il est partisan de l'économie de marché, du libéralisme tempéré. Remis au goût du jour par le mouvement ATTAC, il devient au milieu des années 90 l'emblème des militants antimondialistes.
Tobin a constaté qu'il faut qu'il y ait un grain de sable dans la spéculation. Une petite taxe de 0,1%, son idée c'était que ça ne freinerait pas les investissements, les échanges de marchandises, mais que par contre, pour les gens qui dans une même journée passent leur temps à acheter et à revendre, s'ils doivent la payer à chaque fois, ça finit par être un facteur un peu dissuasif. Alors, il y a des variantes qui ont été proposées depuis. C'est les taxes de type Tobin sur lesquelles il faut travailler. Mais finalement, il a mis deux idées au goût du jour. La première, c'est celle qu'on ne peut pas laisser les marchés gouverner le monde, qu'il faut des règles, qu'il faut un peu les encadrer, que ce n'est pas la spéculation qui doit gouverner l'avenir de l'humanité. Et la deuxième, c'est qu'on peut, à partir des ressources créées par une taxe de ce type, faire de la redistribution entre les riches du Nord et les pays du Sud en développement, c'est-à-dire créer un impôt mondial, ce qui est le propre de la politique. Finalement.
En septembre 2001, James Tobin, alors âgé de 83 ans, sort de sa retraite confortable et se rebiffe. Je n'ai rien de commun avec les praticiens de cette révolution contre la mondialisation et je ne veux plus qu'on utilise mon nom à mauvais escient, réaffirmant du même coup qu'il est pour le libre-échange, qu'il est pour l'action du FMI et de l'Organisation mondiale du commerce, seule régulation à ses yeux capable de lutter contre la tyrannie des marchés.
Mettre un grain de sable dans la spéculation, c'est ainsi qu'Harlem Désir, alors président de l'intergroupe Taxation du Capital et rapporteur sur la taxe Tobin du Parlement européen, c'était en 2002, je le rappelle, qualifiait l'ambition de Tobin. Est-ce effectivement ainsi qu'on peut la résumer, Günther Kappel-Blanquer, selon vous?
Oui, cette phrase, elle est très emblématique. Hein, mettre un grain de sable dans les rouages trop bien huilés de la finance internationale. Je donne la phrase en entier parce que ce qui importe, je crois, c'est plus la fin. Tout le monde a retenu cette idée du grain de sable. Mais Tobin a bien conscience et le dit ouvertement. Le problème n'est pas de punir les marchés, on l'a dit, ça a été bien expliqué. Hein. Tobin est un réformateur et pas du tout un révolutionnaire. Tobin, d'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est un des pères de la théorie financière. Hein. Il sait vraiment de quoi il parle. Hein. C'est quelqu'un qui a un gros bagage technique. Je vous disais, hein, il a eu des contributions essentielles à la théorie financière. Donc, il maîtrise très bien le sujet. Et donc, il ne s'agit pas pour lui, évidemment, de punir les marchés ou de condamner la spéculation, parce que au final, la spéculation peut être utile. Mais le problème est donc pas tant que les marchés fonctionnent mal.
Ils fonctionnent trop bien, en fait.
C'est ça. Ils fonctionnent trop bien. Et en l'occurrence, trop rapidement. Et donc, il faut ralentir les marchés. Hein. Et c'est bien son idée. Hein. C'est pas tant une taxe sur la spéculation, comme on l'entend souvent, mais plutôt une taxe sur la vitesse. Une taxe sur, comme on le dit dans le jargon, sur la liquidité des marchés. Pour, redonner, comme ça a été dit, hein, redonner des marges de manœuvre à l'État.
Des marges de manœuvre à l'État, c'est important. En fait, c'est un peu cette idée de concilier les marchés financiers qui existent, c'est un fait. James Tobin ne dit pas l'inverse et il ne conteste pas non plus cette existence. C'est juste l'idée que tout le monde avance effectivement au même rythme. Cette idée de rythme, elle est très importante chez James Tobin. Avant cela, Gunther Cappel-Blanquart, on va évidemment revenir sur comment on arrive à ralentir le rythme. Avant cela, est-ce que on se méprend, on entendait dans les hommages précédents cette idée, voilà, de James Tobin qui a donné son nom à la taxe, mais vraiment au sens premier du terme. Est-ce que c'est se méprendre sur James Tobin? Est-ce que c'est ce qu'on a retenu parce qu'il y avait un contexte politique, mondial aussi, qui a fait que cette taxe a trouvé, on va dire, des oreilles attentives? Mais est-ce que ce serait se méprendre que de garder uniquement cet aspect-là de toute la pensée de James Tobin?
Oui, bien sûr, hein, James Tobin est connu du grand public pour cette taxe, mais le réduire à la taxe, ce serait vraiment ridicule, parce que James Tobin, c'est avant tout un des plus grands économistes, un des plus influents, des plus respectés de la seconde moitié du XXe siècle. Hein. Ses contributions sont énormes dans tout un tas de domaines, ça va des statistiques au revenu universel, c'est un des premiers à théoriser cette idée du revenu universel, c'est un des premiers à s'interroger sur les limites de la croissance en économie de l'environnement. Il a même des travaux presque qu'on considérerait aujourd'hui comme féministes. C'est dire à quel point c'est quelqu'un de visionnaire qui a des contributions dans énormément de domaines. Et je vous disais, il est reconnu. D'ailleurs, vous dites que son heure de gloire, c'est le début des années 2000, quand il y a des propositions de taxes. En fait, son heure de gloire, c'est 81, 20 ans plus tôt, lorsqu'il est évidemment prix Nobel.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez dit déjà, Gunther Cappel-Blanquart, on ne peut pas parler d'un radical dans ce qui concerne James Tobin, mais tout de même, pour commencer à situer le personnage, cette idée tout de même de contrôler, de réguler les marchés financiers d'une certaine manière, ne font pas de lui non plus, on va dire, le représentant des orthodoxes. Dans quelle mesure on peut dire qu'il appartient à un courant, celui des hétérodoxes? Est-ce que lui-même se situait en marge peut-être d'une pensée dominante? Est-ce qu'il s'assumait comme tel?
Disons que ce qui est frappant, hein, quand on regarde le personnage, et ce qui le rend très attachant, c'est sa grande humilité. Hein, dans son discours, lors de la remise du prix Nobel, et dans tous ses travaux, il a cette humilité, alors qui est certainement liée aussi à son parcours. Hein. Et donc, il ne cherche jamais véritablement à se mettre en avant, et il se dit lui-même un disciple de Keynes. Il dit que voilà, Keynes est vraiment son maître à penser, donc il se situe clairement dans cette inspiration keynésienne, donc l'idée d'utiliser les marchés, de contrôler les marchés. Donc je ne dirais pas que c'est un hétérodoxe, en tout cas c'est un penseur libre. Avec des positions iconoclastes, mais ce qui le rend iconoclaste, c'est plutôt son côté visionnaire. Je vous dis, il aborde des sujets avant les autres. Hein. Il apporte pas forcément les bonnes réponses, on peut en discuter, mais en tout cas, il pose des questions que les autres ne posaient pas à ce moment-là.
Je vous posais la question, Gunther Cappel-Blanquart, notamment parce que dans votre ouvrage que je citais à l'instant, vous le dites, parmi les universitaires, le sujet de la taxation financière n'a guère suscité d'intérêt et encore moins d'enthousiasme, dans le sens où la taxation sur les transactions financières est à contre-courant de la théorie financière standard qui consacre les bienfaits de l'échange et les vertus du marché. Encore une fois, comment positionner Tobin, sachant cela, sachant cette réception dans le monde universitaire, parce qu'on a beaucoup parlé des courants altermondialistes, on a parlé de cette réception par le grand public. Est-ce qu'il faut voir Tobin comme une sorte d'ovni parce qu'il s'intéresse à ce sujet, ou au contraire, il ne faut pas en faire un dissident dans le sens où cette proposition de taxe sur les opérations de change élaborée par Tobin ne constituait pas non plus le cœur de sa vision, comme on le disait à l'instant?
Mais c'est ça, un ovni, c'est peut-être le bon mot, en fait, parce qu'il est à la fois, je vous dis, un personnage central de l'économie depuis les années 60 jusqu'à la fin des années 90. C'est un des personnages les plus influents. Je vous disais, c'est quand même un des pionniers de la théorie financière moderne. Et en même temps, il a des positions parfois très iconoclastes. C'est vrai que cette taxe, elle a longtemps été méprisée un peu par les économistes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'étais vraiment ravi, alors, à titre personnel, bien sûr, mais aussi plus largement, par ce prix de l'Association française de sciences économiques, parce que la communauté académique redécouvre, en fait, ses travaux. Tobin le regrettait lui-même dans pas mal de courriers, de préfaces qu'il a pu écrire sur le sujet. Il disait, mais je suis vraiment navré que ce soit tombé dans un puits sans fond. Cette taxe est frappée d'anathème. Alors, c'est difficile d'expliquer pourquoi il a eu aussi peu de succès, alors que personnellement, c'était quelqu'un de tout à fait respecté. Alors, il y a plein d'explications possibles. Et j'en mettrai une en avant peut-être. C'est l'idée que sa proposition est dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Sa proposition est très simple. Et c'est vrai que nous, en tant qu'économistes, très largement, on aime les modèles un peu sophistiqués. Lui a toujours revendiqué de faire le plus simple possible. Je disais, il a travaillé sur le revenu universel parce que pour lui, c'était la façon la plus simple de sortir les plus pauvres de leur état, l'état dans lequel ils sont coincés. Il a toujours été, je vous dis, cette obsession pour des choses simples, ça lui vaut peut-être
ce relatif oubli, cette mise à distance. Mais c'est ce qui aussi lui vaut, on pourrait dire, c'est la seconde face de la pièce, mais c'est ce qui lui vaut aussi cette reconnaissance par le grand public, et notamment parmi les militants. On peut dire que ça, l'un compense l'autre de ce point de vue-là. Alors, pour bien comprendre la façon dont James Tobin a observé aussi, en témoin de son époque, mais aussi bien sûr en économiste avec la vision qui était la sienne, il faut comprendre comment le personnage s'est construit aussi intellectuellement. James Tobin est né en mars 1918 dans l'Illinois. Comment le milieu dans lequel il a grandi a-t-il joué sur sa volonté de devenir économiste, si tant est qu'il ait joué un rôle, Gunther Cappel-Blanquart?
Oui, ça a certainement joué. On sait relativement peu de choses parce qu'il ne se met pas du tout en avant, mais donc il naît dans les années, en 1918, vous le rappeliez, donc il vit la grande crise de 1929, et évidemment il est marqué, d'autant que sa mère est assistante sociale, son père est journaliste, donc ça lui donne ce goût quand même pour ces thématiques liées justement à l'économie, c'est très fort évidemment chez lui. Ce qu'il marque aussi, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il s'engage quand même. Il est 4 ans sur un destroyer. Il en parle très peu. Il le mentionne, mais il dit que bon, évidemment, ça a été une expérience, il le dit, formatrice. ça a été évidemment quelque chose on l'imagine d'assez lourd. Et puis du coup, il revient bien plus tard, donc avec aussi beaucoup plus de maturité. Il revient finir sa thèse à Harvard au début des années 50, et avec pour but, vous l'avez rappelé dans votre introduction, et je crois que ça c'est majeur, pour but d'essayer de changer le monde.
Rien que cela, et on va voir quels outils il met à disposition pour changer justement ce monde. Et de toute façon, le monde, on l'a mentionné, est en train de changer quoi qu'il arrive, puisque nous l'avons dit, il y a ce contexte qui imprègne quand même grandement au moins le début de sa vie et donc de sa carrière et de ses travaux aussi scientifiques et théoriques. C'est ce contexte de crise dans le sillage du crash boursier de Wall Street en 1929. En mars 1933, James Tobin a 14 ans lorsque Franklin Roosevelt, alors fraîchement élu président des États-Unis, prononce son discours d'investiture.
Les valeurs ont chuté à des niveaux fantastiques. Les taxes ont augmenté. Notre capacité à payer s'est effondrée. Partout, les gouvernements font face à de sérieuses réductions de revenus. Les moyens d'échange sont bloqués par le gel des courants commerciaux. Les fermiers ne trouvent plus de marché pour leurs produits et pour des milliers de familles, l'épargne de plusieurs années s'est évaporée. Plus important, une foule de citoyens sans emploi se trouve confrontée au sinistre problème de sa survie et à peu près autant trime pour un salaire misérable. Seul un optimiste idiot pourrait nier les sombres réalités du moment. Notre première tâche, la plus importante, est de remettre les gens au travail. Ce n'est pas un problème insoluble si nous nous y attelons avec sagesse et courage. Cela peut être accompli en partie par un recrutement direct du gouvernement, en traitant le problème comme nous traiterions l'urgence d'une guerre, mais en accomplissant dans le même temps, grâce à ces emplois, les grands projets dont nous avons besoin pour stimuler et réorganiser l'utilisation de nos immenses ressources naturelles. Dans le même temps, nous devons franchement admettre qu'il y a excès de population dans nos centres industriels et, par la mise en œuvre d'une redistribution à l'échelle nationale, rechercher à obtenir un meilleur usage de la terre pour ceux qui y sont les plus aptes. Oui, la tâche peut être soutenue par des efforts précis en vue d'élever les valeurs des produits agricoles et en conséquence, le pouvoir d'acheter les productions de nos villes. Elle peut être soutenue par l'unification des activités de secours qui aujourd'hui sont souvent éparpillées, peu économiques et inégales. Elle peut être soutenue par une planification nationale et une supervision de toutes les formes de transport et de communication, ainsi que d'autres équipements qui ont définitivement un caractère public. Il y a de nombreuses manières de la soutenir, mais se contenter d'en parler n'en fera jamais partie. Nous devons agir vite.
Il existe de très multiples façons de soutenir l'économie. C'est le discours de Roosevelt en 1933. Vous l'avez dit, Gunther Cappel-Blanquart, l'idée, le fondement même de la passion de James Tobin pour l'économie, c'est aussi parce que l'économie permet de fournir des solutions. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on est en mesure de déterminer si ce contexte-là de crise qui s'étend sur plusieurs années, il n'y a pas que 1929 aux États-Unis, joue aussi sur la façon dont James Tobin conçoit l'économie et son rôle aussi dans la cité?
Oui, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, je dirais, l'économie a quand même mauvaise presse. En tout cas, les économistes ont mauvaise presse. On nous reproche à juste titre de ne pas avoir prévu, par exemple, la dernière crise de 2008. C'est vrai, hein. Aucun économiste n'avait vraiment vu venir cette grave crise. Et pour autant, moi, je reste optimiste. L'économie, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais est de nature à changer le monde. Et d'ailleurs, l'exemple que j'aimerais donner, c'est justement cette grande crise de 2029 comparée à la crise de 2008, sont deux crises qui sont assez similaires au fond, mais dont les conséquences n'ont pas été les mêmes. Pourquoi ? Parce que on a appris. On a appris grâce à des gens comme Keynes et comme Tobin, qui ont apporté des solutions qui nous permettent, alors peut-être pas d'éviter les crises, mais en tout cas d'amoindrir l'impact de ces crises, de faire en sorte que ce soit pas un désastre absolu. C'est quand même grâce aux économistes. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire à mes étudiants, là, les étudiants réfléchissent à leur orientation en ce moment, je leur dis, mais évidemment, on voit bien à quel point des gens comme Pasteur ont sauvé un certain nombre de vies humaines grâce aux vaccins ou à d'autres inventions. Pour les économistes, on peut pas faire ce lien, et pourtant, des gens comme Keynes et Tobin ont certainement sauvé des centaines de milliers de vies.
Sauver des milliers de vies, alors par des mécanismes qui, effectivement, ne peuvent pas être directement peut-être imputés à ces vies sauvées. Ce qu'il y a de bien avec James Tobin, c'est qu'il nous permet aussi de retracer une histoire un peu plus large aussi des transactions, de la taxe et des tentatives de taxation des transactions financières. Alors, évidemment, la taxe Tobin, on va y revenir, ne doit pas nécessairement être confondue avec l'intégralité de toutes ces autres taxes-là. Mais ce qui est intéressant aussi avec la crise de 1929, c'est qu'en 1934 est instaurée la Securities Exchange Commission, qui est un peu le gendarme, on va dire, financier américain, et dont la section 31 prévoit que le budget soit financé par une commission sur les ventes d'actions. Qu'est-ce que c'est censé changer, Gunther Cappel-Blanquart, à ce moment-là? Pourquoi il y a déjà une forme de volonté aussi de taxer ces fameuses transactions financières à ce moment-là?
Ce qui se passe dans les années 30, c'est formidable en matière de régulation financière. Et d'ailleurs, j'insisterai sur un point qui paraît un détail, mais j'ai ce goût aussi pour la simplicité. Les réformes tiennent en 13 pages. Aujourd'hui, quand on veut réglementer les marchés, un des défauts qu'on peut avoir, c'est d'avoir des dispositifs extrêmement sophistiqués dans lesquels en fait les lobbies s'engouffrent parfois. Les nouvelles réformes réglementaires sur les banques, c'est des milliers de pages, des centaines d'amendements, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est un petit peu paralysé. Donc, pour revenir à la création du gendarme, on réalise à cette époque, dans les années 30, que les marchés livrés à eux-mêmes, ça ne fonctionne pas. Il faut être, comme le disait Roosevelt, un optimiste idiot pour penser que ça peut fonctionner. On a besoin de régulation. Le marché lui-même a besoin de régulation pour bien fonctionner. Et donc, il faut cette régulation pour le marché lui-même. Donc, d'une certaine manière, il est logique que le marché paie pour cette régulation. Il ne s'agit pas d'aller prélever un impôt sur le revenu pour financer les activités de contrôle des marchés, mais de faire payer donc Wall Street pour son contrôle. C'est l'idée de cette taxe qui est mise en place aux États-Unis et donc qui finance le gendarme. Cette taxe est toujours en vigueur aujourd'hui.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là qu'il y a un peu deux fonctions aussi à ces taxes-là. Il y a cette idée d'alimenter, d'être une recette, en fait, tout simplement, d'alimenter financièrement, alors là, en l'occurrence, ce fameux gendarme, mais on pourrait avoir une vision plus large. Et puis, il y a cette idée qu'elle va jouer comme un signal, on va dire, et donc réguler les comportements, on va y revenir. En France, il existe un impôt sur les opérations boursières depuis 1893. Au Royaume-Uni, c'est encore bien plus ancien, puisqu'il existe un timbre qui permet au Trésor britannique de prélever, c'est le cas toujours aujourd'hui, une taxe de 0,5% sur les achats d'actions de sociétés britanniques. Quand toutes ces taxes-là commencent à se mettre en place, donc on le voit avant le XXe siècle, quelle est l'idée? Est-ce qu'on se dit, ah tiens, c'est une manne financière intéressante, ou est-ce que c'est une façon de calmer les comportements de tout le monde?
Alors, vous faites très justement référence à des taxes qui sont similaires un peu aux taxes Tobin, parce que ce qu'il faut rappeler peut-être pour bien comprendre, c'est que Tobin n'est pas le premier à avoir cette idée. Keynes avait déjà en tête l'idée de taxer, alors non pas les transactions de change, mais les transactions en bourse. Mais le principe est vraiment similaire. Et quand on regarde un peu finement ce qui se passe dans l'histoire, c'est que eh bien, les transactions financières ont toujours été taxées. Et ça ne devrait choquer personne. Chaque transaction que vous réalisez aujourd'hui est taxée. Alors, tout le monde a en tête la TVA. Alors, c'est un dispositif un petit peu différent. Mais c'est bien une taxe sur une transaction. Le modèle qui s'apparenterait le plus, c'est les taxes que vous payez lorsque vous avez la chance de pouvoir acheter un bien immobilier. Alors, ce qu'on appelle les frais de notaire. En fait, les frais de notaire ne sont pas des frais pour le notaire, sont principalement des taxes. Hein. Et ces taxes se justifient pleinement. Hein. Lorsque vous achetez un bien immobilier, eh bien, l'État garantit que vous en êtes bien le propriétaire. En cas de litige, en cas de problème, quel qu'il soit, hein, l'État va bien garantir que vous figurez sur un cadastre, sur un registre qui prouve bien que vous êtes le propriétaire légitime.
Donc il fournit un service quelque part.
Exactement. Et en contrepartie de ce service, eh bien, il faut bien le financer. Et donc, il y a cette taxe. Donc, on cite souvent la taxe en Grande-Bretagne qui existe depuis plus de 300 ans. Pour la petite histoire, ça existe depuis même plus longtemps encore en France. Hein. Vous savez que une des premières sociétés par action au monde est française. C'est dans la région de Toulouse. C'est à l'époque des moulins. Alors aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que cette entreprise continue d'exister. Aujourd'hui, c'est une usine hydroélectrique qui dépend d'EDF. En tout cas, pour revenir au sujet, cette entreprise existe depuis 800 ans. Et à l'époque déjà, lorsqu'il y avait des échanges, pour valider ces échanges, eh bien, vous payez une taxe. Parfois, on parle de timbre, hein, qui justement permet d'assurer, de garantir les échanges. Donc, le marché a besoin de l'État, de la garantie cadre, de l'État, du contrôle de l'État. Il est normal que le marché, finalement, paie sa part.
Donc, c'est une juste rémunération qui, en fait, si on vous comprend bien, a ces deux fonctions. À la fois l'idée d'alimenter financièrement un service rendu, mais aussi de fournir un cadre et une forme de régulation déjà, même si, évidemment, celle-ci va énormément évoluer au cours du temps. Alors, nous avons mentionné déjà à plusieurs reprises le nom de John Maynard Keynes, parce qu'il a joué un grand rôle dans la vie et puis aussi dans le parcours intellectuel, évidemment, de James Tobin, où on l'a dit aussi, James Tobin rentre à l'université et c'est là un tournant pour lui, puisque c'est là qu'il va faire la rencontre théorique, certes, avec John Maynard Keynes.
Of course, when Keynes was Bien sûr, à l'époque où Keynes était actif et en vie, il n'existait pas encore de prix Nobel d'économie. Mais espérons qu'il l'aurait reçu s'il avait existé. Étant donné que ce sont les Suédois qui en sont responsables, il l'aurait probablement eu. Je pense que peu de livres sont célébrés 50 ans après leur publication, et encore moins le méritent vraiment. Le 50e anniversaire de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de Keynes est aussi un anniversaire personnel pour moi. Car c'est peu de temps après que j'ai commencé à étudier l'économie à Harvard. Et il se trouve que j'ai fait mes premières armes sur le nouveau livre de Keynes. C'était parce que j'avais un jeune tuteur, qui était aussi mon professeur d'introduction à l'économie, qui avait été en Angleterre, et qui était un peu fou, et qui m'a dit, « Eh bien, pour le tutorat, il y a ce nouveau livre d'Angleterre que certains pensent important, alors toi et moi, allons le lire. » J'étais trop jeune, j'avais 19 ans, et trop ignorant pour savoir que j'étais trop jeune et trop ignorant pour lire ce livre. Alors je l'ai lu, et c'était plutôt passionnant. Ce fut mon introduction au raisonnement théorique en économie, à la controverse en économie, ainsi qu'au diagnostic et aux prescriptions pour les maux du monde pendant la Grande Dépression. Donc, j'ai appris l'économie keynésienne à cet âge-là, et beaucoup de gens pensent d'ailleurs que je n'ai rien appris depuis.
La voix de James Tobin en 1986, dans un discours prononcé lors de la 22e conférence annuelle du prix Nobel. Gunther Cappel-Blanquart, on le comprend très clairement. James Tobin a lu Keynes, il s'est passionné pour Keynes. Toute la question est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui le séduit dans la pensée de Keynes? Est-ce qu'il faut y voir autre chose qu'un effet de mode lié aussi à la vigueur de la pensée de Keynes dans l'après-crise de 29? Et d'ailleurs, l'extrême ne va pas jusqu'où, mais Tobin le dit. Il le dit, c'est plutôt les très jeunes économistes qui s'intéressaient à Keynes, pas les économistes bien en place. Alors qu'est-ce qui le séduit dans la lecture de Keynes?
Ce qui le séduit, c'est juste tout simplement le fait que ce bouquin est génial. Et il le dit, hein, 50 ans après à l'époque, c'était en 1936, donc presque 100 ans aujourd'hui, ce livre reste incontournable. C'est un des principaux ouvrages jamais publiés en économie. C'est foisonnant. Il y a plein d'éléments, plein d'intuitions, parfois qui sont pas toujours creusées, hein, mais voilà, foisonnant, dense, extrêmement intéressant et complètement en rupture avec ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, on était dans une vision de l'économie. On parle de vision microéconomique, si vous voulez, sans rentrer dans le jargon. Où on s'intéressait aux individus et en gros, Keynes nous explique que, si on veut avoir une perspective globale, on peut pas juste faire la somme des individus. L'économie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. C'est cette perspective dite macro. Il faut voir aussi les choses dans leur ensemble. On peut avoir des phénomènes qui s'expliquent que avec cette vision globale. Et ça, c'est une vraie rupture. Hein. Si vous voulez, pour détailler un peu cette différence entre la vision micro, macro, hein, c'est on peut chaque individu être parfaitement rationnel et collectivement irrationnel. Hein, ça, c'est un des gros apports de Keynes. Hein, par exemple, le mimétisme. Hein, c'est un sujet qu'il aborde dans son ouvrage. Le mimétisme. On a tous intérêt individuellement à aller voir ce qui se fait ailleurs, parce que d'autres ont de l'expertise, des informations que l'on n'a pas, et finalement, c'est assez rationnel que de s'appuyer sur le travail des autres, ce qui conduit à un phénomène de mimétisme. Mais globalement, si on fait tout cela, alors c'est évidemment très mauvais. Hein, ça peut conduire à des catastrophes. Il donne une application sur les marchés boursiers. En fait, c'est un des premiers à théoriser ce concept de bulle spéculative. Hein, vous pouvez être persuadé que, les marchés sont surévalués. Par exemple, prenons le Bitcoin. On sait aujourd'hui que le Bitcoin a atteint des niveaux extrêmement importants. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Pour autant, est-ce qu'il faudrait vendre du Bitcoin aujourd'hui? Non, parce que rationnellement, j'ai intérêt à faire comme tout le monde. Parce que si tout le monde considère que le Bitcoin c'est extraordinaire et c'est une nouveauté, c'est quelque chose de formidable, je peux pas me battre contre le courant à moi tout seul. Donc la rationalité individuelle et puis ce qui se passe au niveau collectif sont des phénomènes complexes et ça c'est le grand apport de Keynes, je dirais, vraiment en rupture.
C'est le grand apport de Keynes et c'est aussi une façon pour James Tobin de s'intéresser au marché financier. Et si on garde en tête que c'est cela aussi qui va l'intéresser tout au long de sa carrière, entre autres, nous l'avons dit, car c'est un penseur très prolixe, il y a cet intérêt chez Keynes, vous l'avez dit, pour la figure du spéculateur, pour la spéculation en tant que telle. Dans quelle mesure Keynes s'intéresse aussi, se préoccupe déjà de taxation des produits financiers? Est-ce que ça intéresse ou est-ce que c'est, il faut y voir plutôt l'apport de Tobin? Est-ce que Tobin, vous l'avez dit, Keynes laisse plein de questions en suspens, c'est du grain à moudre pour ceux qui le suivent ensuite. Est-ce que c'est ça l'apport de Tobin ou est-ce que Keynes déjà avait commencé à poser les bases de, tiens, ce serait peut-être pas idiot que de taxer certains produits financiers?
Alors oui, Keynes jette les bases de la taxation parce que Keynes est lui-même un investisseur et d'ailleurs, il gagnera beaucoup d'argent sur les marchés. Et il plaide, pour faire simple, sur des investissements à long terme. Et donc, il considère que le boursicotage, c'est pas forcément une bonne idée. Dans son ouvrage, d'ailleurs, il considère qu'à Wall Street, finalement, on s'apparente plus à des paris. C'est, il qualifie de Wall Street de casino géant et il essaye de combattre cette idée. Parce que c'est un investisseur qui veut placer de l'argent, contribuer au développement des entreprises. Mais pour Tobin, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est à peu près 50 ans plus tard quand il fait sa proposition. Il s'intéresse moins au marché boursier. Dans les années 70, Wall Street, c'est peu de choses. C'est pas aussi flamboyant qu'aujourd'hui. Faut voir que Wall Street renaît dans les années 80 avec la libéralisation financière. Mais dans les années 70, on se préoccupe pas tellement de Wall Street. Donc, Tobin, là où il a un apport considérable, c'est que il va s'intéresser à la mondialisation plus qu'à Wall Street. Il va s'intéresser, du coup, au marché d'échange.
Et d'où le fait que les deux systèmes ne soient pas forcément à confondre. Je le disais au début, la taxe Tobin ne vaut pas pour toutes les taxes sur les transactions financières. On se situe donc là au milieu des années 30. Tobin découvre Keynes, il voit une manne aussi intellectuelle. Vous l'avez dit, il part ensuite dans l'armée, dans la marine. Les temps sont de toute façon à la guerre. Il revient donc plus mûr après pour terminer son doctorat. Sa thèse porte sur la fonction de consommation rédigée sous la direction de Joseph Alois Schumpeter, et en 1950, il rejoint l'université de Yale où il demeure jusqu'à la fin de sa carrière. C'est un homme loyal. Et c'est peut-être là d'ailleurs la caractéristique majeure de James Tobin, Gunther Kapelle-Blanquer. C'est avant tout un professeur qui est satisfait de ce rôle-là.
Oui, exactement. On disait, il a pas bougé. Alors, il a quand même, je dis, une carrière absolument flamboyante. Il a été le conseiller du président Kennedy. Donc, il n'est pas resté dans son université. C'est pas quelqu'un qui est enfermé dans sa tour d'ivoire. Mais son objectif, voilà, c'est principalement la recherche et l'enseignement. Et donc, il restera à Yale toute sa carrière.
Ce qui est une forme de constance qui convient de souligner. On a dit que c'est un lecteur de Keynes, il se réclame lui-même keynésien, mais pour autant, Gunther Kapelle-Blanquer, il faut peut-être nuancer les choses. James Tobin va lire Keynes, il va essayer de compléter cette vision-là, mais en apportant sa propre vision qui, elle, et il faut bien le mentionner aussi, est très mathématisée. Il y a cette idée aussi de fournir à Keynes des bases solides, rationnelles, théoriques aussi, qui lui permettent d'avoir une sorte de validité scientifique. Est-ce que c'est ça aussi le but que poursuit James Tobin?
Oui, au départ, c'est ça. Je disais, l'ouvrage de Keynes est majeur, il est foisonnant, mais c'est vrai que parfois, tout n'est pas forcément explicité, il y a beaucoup d'intuitions, et donc il y a toute une génération d'économistes, Paul Samuelson, qui sera aussi prix Nobel, et d'autres, qui vont essayer de donner des fondements un peu plus solides à ces intuitions. Et c'est là où Tobin a un apport majeur, notamment sur toute la partie monétaire, et donc il va développer, formaliser, il a un vrai goût pour les mathématiques, il va même avoir des contributions très importante sur des techniques d'estimation statistique, ce qu'on appelle les modèles Tobit. C'est un des rares économètres à avoir économètres, c'est les statisticiens qui s'occupent d'économie, je dirais, à avoir donné comme ça son nom à une méthode, des estimations Tobit. En tout cas, voilà, oui, il s'intéresse surtout en début de carrière à ces éléments très, très quantitatifs, mais pas que, parce que, je dis, il a lui-même des intuitions, le revenu universel, l'économie de l'environnement, qui sont, là, pour le coup, vraiment très novatrices à son époque.
Et pour bien comprendre à quoi cela sert fondamentalement de donner des fondements théoriques, mathématiques à la pensée de Keynes, Tobin s'attaque dans un article paru en 1958 à un principe keynésien, celui de la préférence pour la liquidité. Vous parliez de l'importance de la question de la monnaie aussi chez Tobin, Gunther Cappel-Blanquart. Alors il faut peut-être nous expliquer quel est le principe de cette fameuse préférence pour la liquidité et quelle place cela occupe à la fois dans la pensée de Keynes puis dans celle de Tobin, la façon dont il va se l'approprier aussi.
Alors, cet article de 58, il est génial. Et d'ailleurs, c'est cet article qui lui vaudra le prix Nobel. C'est dire son importance. Il est important pour la théorie keynésienne parce que il permet une meilleure compréhension et des fondements plus solides à la théorie keynésienne. Mais à la limite, ça qu'importe. Il est surtout important. Et ça, c'est presque un hasard. Hein. C'était pas du tout son idée au départ. Il est surtout important parce qu'il donne des fondements à la théorie financière. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette théorie financière, évidemment, la finance, on en fait depuis tout le temps, depuis la Haute Antiquité, on a des traces, des preuves écrites, qu'on s'intéressait déjà évidemment à ce sujet-là, mais la théorie financière, c'est très récent, ça date des années 50. Hein, ça date des années 50, et souvent on cite Harry Markowitz, qui est un des pionniers dans les années 50. Et Tobin, donc, va essayer de... Il va s'intéresser à Markowitz, qui est très peu connu à l'époque, pour constituer ce qu'on appelle la théorie du choix de portefeuille. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour dire les choses très simplement, dans les années 50, vous choisissiez vos investissements comme vous choisissiez votre garde-robe ou votre voiture. Alors, si vous aimez les voitures de sport, bah, vous achetez une voiture de sport. Si vous aimez les 4x4, vous achetez un 4x4. Si vous aimez les petites voitures, vous achetez une petite voiture. Et vous investissiez en bourse, un peu de la même manière, en fonction de vos propres préférences. Hein, si vous voulez prendre des risques, vous allez investir dans tel ou tel titre. Si vous êtes plutôt prudent, bah, d'autres catégories de titres. Ça semble complètement intuitif. Et pourtant, c'est pas du tout la bonne stratégie. Hein, ce que montrent Markowitz et Tobin, c'est que on a intérêt à investir dans ce qu'il y a de mieux. On n'a pas intérêt à investir selon nos préférences. L'investissement, c'est autre chose que de la consommation. Il ne faut pas le traiter de la même manière. Et donc, on doit investir dans les titres les plus performants. Et une fois qu'on a fait ce choix, on doit bien sûr faire en sorte que ce titre performant, ou ce portefeuille plutôt performant, soit adapté à nos objectifs en termes notamment de risque. Hein, si on veut pas prendre trop de risques, eh bien on va avoir un comportement un petit peu différent, mais toujours en investissant dans le même type de titre, donc dans ces portefeuilles. Alors, ça a l'air de rien, mais ça a révolutionné non pas simplement la théorie, mais ça a révolutionné toute la pratique de la finance.
Mais Gunther Cappel-Blanquart, c'est assez séduisant cette théorie-là, mais ça implique quand même de savoir ce qu'est une entreprise performante, de ce qu'est aussi de fait une action performante. Et est-ce que ça, on sait le théoriser, on sait le quantifier ?
Alors oui, on le sait depuis hein, ces travaux. Alors il y a un autre personnage clé qui est William Sharpe, lui aussi qui sera récompensé par le prix Nobel. Un peu plus tard, qui nous explique qu'en fait, le portefeuille le plus intéressant, c'est tout simplement le portefeuille de marché. Avec l'idée assez simple, assez intuitive, qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et donc on va diversifier un maximum. Et je vous dis, ça a non seulement révolutionné la théorie, mais ça a révolutionné la pratique. Aujourd'hui, tout le monde suit les recommandations de Tobin. Vous ne le savez pas. Les gens l'ignorent, mais on fait tous du Tobin dans nos choix d'investissement. Lorsqu'on a une assurance vie, lorsqu'on a un livret A, lorsqu'en fait on confie notre argent à ce qu'on appelle des fonds communs de placement, des SICAV, des mutual funds. Enfin, il y a plein de noms, mais c'est toujours cette même idée, et ça, on le doit principalement à Tobin.
Et parce que tous ces mécanismes, enfin, tous ces véhicules que vous venez de citer, ils permettent de faire quoi très concrètement ? Ils permettent de diversifier et donc de prendre moins de risques. Est-ce que c'est cela que nous dit Tobin ? Et est-ce que diversifier, dans la perspective de Tobin, c'est aussi une façon de limiter peut-être les mouvements de capitaux trop importants, en tout cas des fluctuations un peu folles, et que la diversification raisonnée, on va dire, permet de limiter aussi la la taille du marché. Est-ce que c'est cela aussi qu'essaie d'établir Tobin?
Alors, oui, encore une fois, la théorie financière, il y a une unanimité depuis. Personne vraiment n'a contredit cette idée-là. On doit à peu près tous faire pareil et dans des portefeuilles diversifiés pour réduire les risques. Alors, pas seulement parce que ça permet aussi, comme on a réduit les risques, de prendre des positions plus importantes, ce qui peut s'avérer plus risqué. Donc, il ne s'agit pas juste de pas prendre de risques. C'est très général, cette idée du portefeuille. Et donc, la recommandation que fait Tobin et Sharp et Markowitz, ils sont tous prix Nobel, c'est pas n'importe qui, c'est qu'en fait, il faut confier son argent et éviter de boursicoter. C'est là où on retrouve un peu l'inspiration de Keynes. Et donc, on ne comprend pas pourquoi il y a tant de transactions. La théorie financière est unanime. On nous recommande d'avoir une gestion dite passive, c'est-à-dire d'en faire le moins possible. Ça sert à rien de faire des transactions tous les jours. On sait quelle est la meilleure stratégie. Pourquoi s'embarrasser à vouloir faire beaucoup de transactions? Ça coûte de l'argent, puisqu'à chaque fois, vous payez des frais de transaction. Donc, il y a bien sûr un lien entre ces deux idées. Il est parfaitement cohérent. Il dit que les transactions, elles sont trop importantes. Puisqu'elles sont trop importantes, pourquoi pas les taxer?
D'où le lien que nous allons établir incessamment sous peu. Cet ancrage très keynésien, on l'a dit, persiste chez James Tobin. Et puis vous l'avez dit aussi, Gunther Cappel-Blanquart, ce n'est pas un professeur qui reste dans sa tour d'ivoire. Il s'engage, enfin en tout cas il a un rôle politique à jouer. En tout début des années 60, John Fitzgerald est élu à la Convention démocrate. Et le 8 novembre 1960, il devient le 35e président des États-Unis.
Report 61 and a half votes for John Kennedy. Five and a half votes for Farmington. Two votes for Stevenson.
C'était pour Kennedy et le Parti démocrate en marge du pouvoir depuis deux législatures, la victoire. Et le 35e élu, 43 ans, fortuné, dynamique, entre aujourd'hui dans l'histoire des États-Unis.
Alors nous avons décrit James Tobin en professeur à Yale, Gunther Cappel-Blanquart, mais il s'est tout de même impliqué politiquement, on le disait. Il fait partie de l'équipe des conseillers économiques du président Kennedy de 1961 à 1962. Quelle est alors la priorité, quelle est la mission de cette équipe?
À cette époque-là, le modèle keynésien fait consensus, règne. Donc, on est à l'apogée du modèle keynésien. Donc, on applique les recettes bien connues. Et d'ailleurs, on sait, c'est ce qu'en France, on appelle les 30 glorieuses. Donc, la situation économique est bonne. Et bien, avec son équipe, ils arrivent justement à bien contrôler cette économie pour éviter la surchauffe, pour éviter le chômage. Il y a ce qu'on appelle le polysémique, cet équilibre économique à respecter. Il fait ça très bien, mais je dirais qu'à ce moment-là, c'est presque facile.
Oui, ses idées sont en vogue.
Voilà,
ses
idées sont en vogue grâce à ses travaux qu'il a réalisés. Donc, il n'a plus qu'à appliquer. Donc, il ne va pas rester très longtemps, quelques années à peine. Et puis, il retournera à ses études. Mais il y a un point qui est moins connu, c'est qu'il a aussi soutenu d'autres candidats. Alors, notamment un candidat malheureux aux primaires démocrates dans les années 70, avec un projet très, très précis, beaucoup plus précis que simplement des mesures politiques économiques générales comme il avait pu le faire auparavant. Il défend cette idée de revenu universel qui est aujourd'hui quelque chose de relativement bien connu. Je rappelle en deux mots, l'idée c'est de donner directement à chaque citoyen, dès sa naissance ou à sa majorité, une certaine somme. Et c'est un des premiers à proposer cette contribution et il la propose à un candidat démocrate qui de toute façon va connaître un échec. Alors cette histoire elle est assez drôle et elle résonne beaucoup avec des problèmes contemporains. Il y a des expérimentations qui sont faites aux États-Unis d'un revenu universel. D'accord. Il appelle ça un démogrant. Si vous voulez faire chic. Démogrant, pourquoi? Parce que c'est indépendant de la démographie, c'est indépendant des revenus. C'est simplement lié au fait d'être né, ce revenu, pour tout le monde. Donc il y a des petites expérimentations qui sont faites. Et donc on a un retour d'expérience qui montre que, comme on pouvait le craindre, ça désincite, mais très très légèrement au travail. Très légèrement. Au fond, La crainte, c'est que la désincitation soit très forte. En fait, elle est très modeste. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, il y a une mauvaise nouvelle à l'époque. C'est que ça augmente les divorces. Ça augmente fortement le taux de divorce. Et c'est la raison pour laquelle cette mesure va être enterrée. Et c'est la raison pour laquelle le candidat va perdre. Parce qu'il y a une levée de bouclier. On se dit, mais vous vous rendez compte, ça va être je sais pas, l'anarchie, ça va être la panique si les ménages commencent à divorcer. Je vous rappelle, on est dans les années 70. Hein, c'est beaucoup plus conservateur. Donc, c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, évidemment, on aurait le regard inverse. Et d'ailleurs, il y a des mouvements féministes qui sont emparés de cette idée chère à Tobin en disant, mais pourquoi ça augmente les divorces? Parce que c'est un facteur d'émancipation. Hein, ça permet aux femmes de s'émanciper de leur mari et de ne pas rester parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc, voilà. Son incursion en politique, ça a été un échec, mais son idée reste encore aujourd'hui débattue dans les cercles académiques.
Une incursion donc sur un terrain plus politique, certes, mais on n'oublie pas que James Tobin reste d'abord et avant tout un théoricien qui continue en keynésien à observer et analyser le monde de la finance tel qu'il évolue à partir des années 60 et 70, c'est là que nous étions. Alors, vous le disiez à l'instant, Günther Kapel-Blanquer, dans les années 70, Wall Street, ce n'est pas grand-chose, mais tout de même, le mouvement se mondialise. Et en 50 ans, les choses vont exploser. Les transactions sur les actions dans le monde passent de 300 millions de dollars en 1975 à près de 200 000 milliards de dollars en 2021, soit un passage de 5 à 300% du PIB mondial en 50 ans. Donc, tout change. Et James Tobin a pris part à ce changement. En 1972, il mentionne pour la première fois l'idée d'une taxe sur les transactions de change, l'année où est enregistré pour la première fois le fameux Money des Pink Floyd. James Tobin, l'économiste derrière la taxe, c'est le sujet de l'émission que nous consacrons comme tous les jeudis à un grand penseur de l'économie. Vous êtes bien sur France Culture et entendez-vous, l'écho continue de dresser donc le portrait de l'économiste américain James Tobin en compagnie de Günther Kapel-Blanquer, professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste des marchés financiers. Günther Kapel-Blanquer, nous le disions, le milieu des années 70 marque une forme de point de départ de 50 années de frénésie financière. James Tobin est au premier rang d'un point de vue théorique. Il continue de se pencher sur les comportements d'investissement parce que c'est de cela dont il est question depuis le début. Et en 1969, il développe toute une théorie des choix d'investissement pour tenter de comprendre la façon dont sont valorisées les entreprises. Il développe pour cela un ratio. Alors que vient au juste mesurer ce ratio Q et pourquoi James Tobin est resté connu aussi pour cela ?
Oui, je disais, il a plein d'apports et j'avais oublié celui-là. Merci de me le rappeler. Il a aussi une contribution majeure en ce qu'on appelle en finance d'entreprise, ouais, stratégie d'entreprise. Il va établir un ratio qui est aujourd'hui utilisé partout. Qu'on appelle le Q de Tobin. Hein. Alors pourquoi Q ? Personne ne sait. Lui-même Tobin, il avait besoin d'une lettre. Il n'y a aucune explication. Le Q de Tobin, qu'est-ce que c'est ? C'est un ratio qui permet de mettre en relation la valeur de marché d'une entreprise, sa valeur en bourse et puis sa valeur, je dirais, plus comptable, la valeur de ses actifs. Et donc, lorsqu'il y a des différences entre les deux, Y a des stratégies se mettent en place. Hein, quand vous avez une valeur de marché, quand vous êtes bien valorisé, bah, vous allez favoriser l'investissement notamment. Donc c'est un outil qui est tout le temps utilisé. Là encore, c'est un de ses apports.
C'est un de ses apports. Et puis là encore aussi, le contexte économique, politique va jouer et infléchir aussi quelque part la trajectoire de James Tobin. Le 15 août 1971, le système de Bretton Woods s'effondre.
Le dollar flotte, c'est la nouvelle de la journée, et à partir d'aujourd'hui, il est impossible de changer des devises américaines contre de l'or. C'est un discours quasiment historique qu'a prononcé hier soir le président Nixon, puisqu'en fait, il a remis en cause tout le système monétaire international mis en place au lendemain de la dernière guerre. Cela veut dire que le dollar est à partir d'aujourd'hui pratiquement comme le marque, c'est-à-dire qu'il flotte. Le cours du dollar va varier en fonction de l'offre et de la demande. Dans l'immédiat, il faut s'attendre à une baisse sans doute sensible de la monnaie américaine, et cela va avoir bien sûr d'importantes conséquences dans le monde entier. Pour assainir l'économie américaine, le président Nixon a annoncé un certain nombre d'autres mesures sur le plan intérieur. Nous briserons les reins à l'inflation, a-t-il dit. Pendant au moins 3 mois aux États-Unis, les prix, les salaires et les loyers seront bloqués. Par ailleurs, certains produits américains coûteront moins cher de façon à relancer la consommation. C'est le cas des voitures américaines qui, grosso modo, vont coûter l'équivalent de 1000 francs français en moins. Le plus frappant et le plus important dans tout cela, c'est évidemment le problème, l'aspect monétaire, si important même que le président Pompidou a décidé d'interrompre ses vacances à Brégançon et de venir à Paris mercredi pour présider un conseil restreint consacré justement à cet aspect de l'actualité.
Un extrait du journal télévisé de 13h sur l'ORTF et présenté par le journaliste Michel Tardieu le 16 août 1971. Alors Gunther Kapel-Blancard, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi cet effondrement du système de Bretton Woods et pourquoi provoque-t-il une telle panique?
L'effondrement du système de Bretton Woods est vraiment marquant dans l'histoire économique récente. En fait, entre l'après-guerre, donc les années 50 et les années 70, l'économie dans la plupart des pays développés, c'est l'économie de la reconstruction après-guerre, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien en grande partie grâce aux politiques keynésiennes. Et puis, en 70, brutalement, il y a un changement, c'est l'abandon du système monétaire qui fixe les taux de change entre eux. Alors ça paraît quelque chose d'assez technique. En fait, on va assister à une montée en puissance des marchés. Alors il y a plein de raisons à cela, notamment des raisons techniques. Ça devient très difficile de contrôler les transactions de change dans les années 70 parce que ça devient de plus en plus rapide. Le progrès technique fait que on échange beaucoup plus facilement. Donc le système qui avait été mis en place n'est plus d'actualité, ne fonctionne plus. Donc on change de système et il y a un vrai saut dans l'inconnu.
Un saut dans l'inconnu où James Tobin aussi va sauter quelque part. Et c'est dans ce contexte-là précisément qu'en 1972, lors d'une conférence tenue à Princeton, il pose pour la première fois les bases de cette fameuse taxe qui sera ensuite appelée taxe Tobin. Alors là, Gunther Kapel-Blancard, il faut poser nous aussi les bases. Très concrètement, quelle est la proposition de James Tobin? Puisque vous l'avez dit vous-même en début d'émission, elle est relativement simple. Alors que propose-t-il? Que met-il sur la table?
Alors, pour pas le réduire à la taxe, faut voir que son propos, il est vraiment global. En fait, il voit tout avant tout le monde. Hein, pour lui, dès les années 70, il y a 3 priorités. Il y a contrôler la finance. Dans les années 70, on se rendait pas compte. Hein. Aujourd'hui, évidemment, ça semble être tarte à la crème, mais à son époque, ça n'est pas, c'est pas le cas. Contrôler la finance. Il s'interroge quasiment la même année sur la croissance. Il se demande si la croissance n'est pas obsolète. C'est le titre d'un de ses articles. C'est très novateur à l'époque. Il s'intéresse à l'équité entre les générations. Donc, à ce qui va préfigurer du développement durable. Donc, il est extrêmement moderne. Et il voit, en fait, dans les années 70, le monde basculer. Et donc, il a cette proposition de taxe, mais dans une perspective très globale. L'idée est très simple. Pour chaque transaction, eh bien, on va prélever un pourcentage infime. C'est 0,1%, peut-être 0,5%. C'est complètement infime, sauf que, évidemment, les masses étant très importantes, aujourd'hui, c'est pas des milliards, c'est pas des centaines de milliards, c'est des millions de milliards qui transitent sur le marché change, des millions de milliards, c'est 15 zéros, hein, c'est énorme. Hein. Eh bien, la masse étant tellement importante qu'en prélevant un tout petit grain de sable, eh bien, on pourrait avoir une manne qui pourraient aujourd'hui servir, par exemple, à financer ce qu'on appelle les biens communs, notamment la lutte contre le changement climatique, l'aide au développement, voire, pourquoi pas aujourd'hui, trouver de nouveaux médicaments. Enfin, la manne est potentiellement très forte.
Mais c'est intéressant que vous reveniez sur ce point-là. Vous parlez de manne. Alors, on a dit au début de l'émission qu'il s'agissait aussi de ralentir ce marché-là. Chez Tobin, il y a les deux. Il y a ces deux fonctions-là aussi dans sa thèse.
Alors, oui, il y a les deux, avec une priorité pour le fait de ralentir les transactions de change. Pourquoi ? Parce qu'il dit... le problème, c'est quand on prélève un impôt, d'avoir une légitimité. C'est l'État qui les prélève l'impôt, mais à la tête de l'État, on a des gens élus. Là, ce serait une taxe internationale, et donc il faudrait qu'elle soit légitime. Il faut donc qu'on ait une instance internationale. Au tout début, vous avez rappelé qu'il était attaché au FMI, aux Banques mondiales. C'est aussi pour ça, parce qu'il nous dit, bien sûr, on peut critiquer l'action du FMI et l'action de la Banque mondiale qui n'a pas été top dans les années 80-90, on le sait, on ne reviendra pas. Mais en tout cas, il nous faut des instances internationales pour gérer cet argent. Donc, ce problème-là, il le met de côté dans un premier temps.
Alors, ce qui est intéressant, et on l'a déjà évoqué, c'est qu'avec cette taxe, James Tobin se rend compte rapidement que c'est une pierre, effectivement, qui tombe dans un puissant fond. Il n'a pas la reconnaissance universitaire qu'il aurait peut-être souhaité. C'est repris, en revanche, du côté des altermondialistes. Je mentionnais Attac, mais c'est également repris par des hommes politiques un peu plus tardivement.
Je souhaite relancer sur de nouvelles bases le projet de taxe sur les transactions financières européennes afin de financer cette politique.
Les financements innovants, la taxation des transactions financières, nous pouvons le décider ici. Pourquoi attendre ? La finance s'est mondialisée, au nom de quoi ? Nous ne demanderions pas à la finance de participer à la stabilisation du monde en prélevant sur chaque échange financier une taxation infime.
La taxe Tobin. C'est une bonne idée, c'est-à-dire le fait qu'on puisse prélever sur tous les échanges financiers. La seule condition pour que cette idée s'applique, c'est que ce ne soit pas simplement l'Europe, que ce soit le monde, la planète, qui organise ce système de prélèvement. Parce qu'il suffirait que quelques pays ne jouent pas la taxe Tobin pour qu'immédiatement il y ait des fuites vers ces pays-là et que les choix économiques et financiers se fassent uniquement dans ces pays. C'est pour ça que je crois qu'après avoir fait l'Europe, il faut avoir la volonté de mettre de la régulation, de l'ordre, c'est-à-dire du contrôle à l'échelle de la planète.
Vous aurez reconnu les voix d'Emmanuel Macron en 2017, celles de Nicolas Sarkozy en 2010 et de François Hollande en 1998. Günther Kapel-Blancard, on se rend compte que cette mesure-là, cette taxe dite Tobin, est très populaire. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est en raison de sa simplicité ou est-ce que c'est parce que chaque crise, finalement, et notamment celle de 2008, réactive la pertinence aussi de son propos ?
Oui, elle est très populaire. Vous auriez pu citer également Jacques Chirac et François Mitterrand.
Et François Mitterrand, effectivement.
Ont défendu cette idée. Mais j'ajouterais quand même un petit bémol, elle est surtout populaire en France. C'est un sujet très franco-français quand même. À l'étranger, ça l'est beaucoup moins. Il y a cette idée pour la France de montrer aussi l'exemple, d'essayer de proposer des solutions innovantes pour contribuer au développement harmonieux de tous les pays. Donc ça commence avec François Mitterrand et puis après tous les présidents de la Ve République. Donc Jacques Chirac a lui considéré que c'était intéressant d'avoir des financements innovants. Finalement, ce sera pas la taxe Tobin, il n'y arrive pas. Ce sera la taxe Chirac, dite Chirac, sur les billets d'avion. Nicolas Sarkozy, puis François Hollande... Et maintenant, Emmanuel Macron, ils sont favorables. François Hollande, il y est favorable en disant que c'est pas possible. Et là, je me permets de dire non, l'argument avancé par François Hollande n'est pas recevable. Dire qu'il faut absolument que ce soit mis en place par tous les pays, c'est faux. Il y a une forte concentration des transactions financières. Ça se fait où ? Ça se fait à New York, à Tokyo, à Hong Kong et à Londres et à Paris. Donc, on n'est pas obligé de réunir tous les pays, c'est pas vrai. Hein. Ça, c'est le meilleur argument pour ne rien faire. Donc...
On peut se concentrer sur ceux qui comptent, finalement.
Voilà. Voilà. On peut très, très bien, on aurait les États-Unis et l'Europe, ça suffirait largement. Il n'y aura aucun obstacle à ce que ça soit mis en place.
On parlait de la crise de 2008. Très rapidement, je voudrais mentionner un article avec vous, Günther Kapel-Blancard, qui, on va dire, témoigne aussi du rôle visionnaire de James Tobin. C'est celui où il s'inquiète aussi de la façon dont on distribue la population étudiante en économie. En quoi c'est une vision intéressante de la part de James Tobin et que ça explique aussi, quelque part, le potentiel de de crise de la part de la sphère financière.
Oui, il a un concept, il invente un terme, c'est celui de l'allocation des talents. Comment on fait, comment on oriente les étudiants? En gros, son idée, c'est de dire que il y a trop de finances. Et il y a trop d'étudiants en finance. Et que ça détourne des étudiants. J'espère que nos étudiants vont choisir des formations scientifiques, des formations d'ingénieurs, trouver de nouveaux médicaments, trouver des solutions au changement climatique, on dirait aujourd'hui. Recentrer, mieux allouer les talents.
Il y a trop de place accordée à la finance et celle-ci est trop efficiente. Quand les choses fonctionnent trop bien parfois, ça implique que d'autres fonctionnent beaucoup moins bien. C'est peut-être le message de James Tobin. Merci infiniment Gunther Cappel-Blancard d'avoir participé à cette émission.